D'accord, très bien. Justement, je me demandais aussi par rapport à la, à tout ce qui était ce rapport écorporel et écrit, quelle était cette distance entre. Moi, j'ai vu un truc de toi, c'était quand tu écris avec les trémas, quand tu tires ces traits, et justement, de ce rapport justement qui va se rapporter sur le papier, qui va devenir quelque chose et qui va être à la fois une sorte de possibilité de s'engager en tant que lecteur à rentrer dans cette gestuelle. Et toi, l'exemple que tu donnes lorsque tu le fais, c'est cette part de réinterprétation à la part du lecteur, de la part du lecteur, de la part du public, de se réapproprier justement quelque chose qui est en latence, prêt à se développer. Et toi, tu le vois comment la part du public ou comment la part du lecteur peut s'ouvrir face à cette forme de poésie qui est justement quelque chose de libéré par rapport au poète.
Je crois qu'il n'y a jamais de problème dès que le contact s'établit entre cette poésie-là, qui est la poésie, hein, les autres ont besoin d'épithètes, c'est plus nous qui avons besoin d'épithètes. Mais dans cette poésie-là, dès que le contact est établi avec le public, à qui soit de 3 personnes ou d'un milliard de personnes, le problème ne se pose plus et la poésie est en place. Ce qui est, c'est que très souvent, il n'y a pas le contact avec la poésie, qu'on croit que la poésie, c'est Émile Verhaeren ou Jacques Prévert, des choses magnifiques qu'on apprend dans les écoles, mais qui ne sont pas la poésie. La poésie, c'est ce contact qui s'établit. Donc à partir de ça, c'est là où on revient au résidu, c'est là où c'est important, parce que l'appropriation, elle va se faire par le souvenir que j'ai du contact direct que j'ai eu à la poésie, mais également par rapport au résidu, qu'il soit une vidéo, un CD, un DVD ou un livre. Et moi, j'ai eu des expériences comme ça très très belles, de jeunes poètes qui avaient exprès écouté ce que je faisais, qui avaient repris le résidu, c'est-à-dire la pré-textuelle, l'ivresque du poème, pour en faire une interprétation tout à fait différente. Et ça prenait, évidemment, c'est là où ça devient fort, c'est là où la poésie devient importante, c'est quand elle a plusieurs sens, en fonction de celui que moi je lui ai donné en écrivant, et en fonction de ce que tu lui as donné toi en le lisant, ou mieux encore en le faisant toi-même. Et ça devient formidable. C'est là où vraiment la poésie existe. Il n'existe pas quand tout le monde dit pareil, le même texte. Sinon, on en revient à Guillaume Apollinaire, qui est un des plus beaux poèmes du monde. Il le lisait comme ça. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Tu vois, tu dis, c'est incroyable. La vie est variable aussi bien que le riz. Tu descendais avec des paquebots, etc., etc. C'était tout à fait Odéon. Et là, ce qui est important, c'est qu'on le lit de son époque à lui, on ne le dit que ça. Les acteurs, les comédiens, les poètes disent que comme ça. Aujourd'hui, ce qui fait la force de cette poésie-là, c'est que moi, je le dis comme ça, mais que n'importe qui peut le dire d'une façon tout à fait différente et tout à fait déterminée, autre. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ça prouve que c'est vivant.
C'est la possibilité de liberté
Oui.
et d'espace vivant,
Surtout.
justement. Et justement, par rapport à cette. Quand moi j'emploie bruit, j'appelle parfois ça l'aura ou c'est l'à côté. Et dans ce que tu as dit, justement, c'est assez intéressant de voir que cet à côté-là est obligatoirement, de façon intrinsèque, appartenant à l'ensemble. Et quand tu parlais, ce que tu viens de dire par rapport à la réinterprétation, justement, de pouvoir réinterpréter les bruits ou de pouvoir les jouer. Est-ce que, par exemple, quand Joël Hubou, quoi, j'aime bien moi sa performance du coup de la table de mixage, tu vois bien,
Très bien.
j'imagine. Est-ce que tu crois qu'il y a justement de la réinterprétation potentielle par
Oui,
rapport à...
non, je crois que ce qui fait la force de cette poésie contemporaine, qui est une vieille histoire, hein, il faudrait vraiment balayer très vite, mais globalement, tous les mouvements qui étaient importants en poésie ont duré 2 siècles. Tu prends la dynastie Tang en Chine, c'est 2 siècles. Tu prends la Renaissance en Europe, c'est 2 siècles. Tu prends les troubadours, c'est 2 siècles. N'importe quel mouvement qui existe, c'est 2 siècles. L'avant-garde commence avec le coup de dé de Mallarmé ou avec le livre de Mallarmé, qui est pour moi encore plus fondamental. Il y a 1 siècle, donc on est à mi-parcours. Nous sommes des gens qui sommes dans une tradition, aussi paradoxale que cela puisse paraître. C'est-à-dire que d'un coup, on a décidé que cette société révoltante, débile, lamentable, pourrie, hégémonique, ne pouvait plus exister. Donc on est à mi-parcours. Ça a commencé avec Mallarmé, puis après il y a eu toutes les avant-gardes historiques, les futuristes, les dadaïstes, Cobra, j'en passe, et des meilleurs, jusqu'à nous. Et là, on est à mi-parcours. Donc c'est là où ça devient important, en effet. Et donc, tout ça pour te dire que nous récupérons immédiatement tel outil qui se crée était immédiatement récupéré par nous. C'est notre problème à nous. C'est non seulement être tel que nous serons, on va en reparler, c'est-à-dire en chair et en os, à corps et à cri, la chair, le sang, la viande, mais en même temps, il y a un nouvel outil qui arrive, une console, une vidéo, un CD, un DVD, la toile, l'Internet et tout ça. Tout ça, on le récupère tout de suite pour en faire un outil de plus De plus, ça n'enlève pas le crayon et la plume, ça n'enlève pas le stylo à billes, ça n'enlève pas le clavier. Mais ça s'ajoute chaque fois à une nouvelle façon de travailler, une façon de dire les choses aux gens, pas de communiquer, hein, de leur dire les choses pour qu'ils soient autres. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est tout, cet aspect, pour moi, déterminant de dire, mais ça, je le prends quand je veux, et puis je le récupère, et puis je vais apprendre à m'en servir, et puis je vais le détourner, et puis je vais en faire vraiment un outil pour la poésie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... On a essayé en effet de restaurer le corps. Ce qui se passe, c'est que le corps, il a disparu dans l'histoire de l'humanité parce qu'il y a eu l'Inquisition catholique. Il y a eu des gens qui étaient des gens qui faisaient des tisanes, des soupes, qui chantaient. Ils voyaient bien qu'en chantant, ils se transformaient. Ils voyaient bien qu'en bougeant, ils se transformaient. Donc il y a eu tout un aspect comme ça qu'on appelle les mages, les enchanteurs, les sorcières, les sorciers, tout ce que tu voudras. Et tout ça, il y a eu un génocide qui a réussi. Il y a eu des tas de génocides pourris qui ont été entamés, mais celui-là, il a réussi. Tout ce qui connaissait ce secret-là a disparu. Donc notre problème à nous, pour restaurer le corps, pour restaurer la vie, c'est de récupérer cette mémoire. Donc pour récupérer cette mémoire, il faut aller loin de toutes les cultures monothéistes, qui sont les barbaries les plus infâmes. Aujourd'hui, le monde est gouverné par les monothéistes. Je veux dire, Bush, c'est un monothéiste. Poutine, la première chose qu'il a faite, c'est de se convertir à l'orthodoxie russe. Et on ne parle pas de ce qui se passe entre les musulmans et les juifs. Voilà, donc tout ça, on est complètement coincé dans ces monothéismes. Donc il faut retrouver cette liberté du corps animiste, en fait, ce que primaire, naturel, tout ce que tu voudras. Ça, pour moi, c'est très, très important. D'où l'idée que j'ai toujours, ce travail que j'établis depuis une quinzaine d'années, d'aller voir des sociétés premières chez Bamileke au Cameroun, les Piaroua en Amérique latine, pour retrouver une restauration et une mémoire du corps. Sinon, on est complètement autodidacte du corps pour le moment. Et donc, moi, j'essaye simplement, y compris en allant voir des grottes aurignaciennes il y a 35 000 ans, à Cazel ou aux Aisies ou dans ces coins-là, y compris de retrouver cette mémoire-là perdue dans les bûchers du Moyen-Âge, du pape qui s'appelait Innocent. Incroyable.
Il faut bien un nom pour se protéger de ce que l'on fait.
Voilà.